cela voulait.
Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Vous êtes bien sur Radio Canu et c'était Yves Montand qui chantait Quand un soldat à l'instant, juste avant Raymond Gary, Ce que cela voulait pour nous, et encore avant Rosemary Stanley et Don Lamena avec Sega Jaco. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 27 novembre, il est 19h03 et on vous a concocté une belle émission.
Alors, à l'international aujourd'hui, on refera à nouveau un point sur la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens. On parlera de l'extrême droite qui est aussi au pouvoir aux Pays-Bas et on fera un bilan de la grève au Bangladesh.
Et au national, on parlera de la concentration de FAF dernièrement à Romans-sur-Isère et comment ça s'est passé pour eux.
Et puis au local, donc, on reviendra sur les répressions lycéennes au lycée Lamartinière à Montplaisir et on écoutera une interview des livreurs en vue de leur action la semaine prochaine.
Mais tout de suite, une citation. Ah non, pas vraiment une citation, et une chronique nécrologique.
C'est
en fait.
Plus qu'une citation, c'est une chronique nécrologie, évidemment. On ne pouvait pas s'en empêcher puisque c'est un peu la nouvelle de la semaine pour nous, Lyonnais, Lyonnaises. Gérard Collomb est mort ce samedi à l'âge de 76 ans. Alors si vous avez suivi un peu les médias mainstream, presse, radio, télé, tous encensent le maire, le président de la métropole, le ministre de l'Intérieur, des éléphants du PS au Rassemblement National, la ligne est unanime, Gérard Collomb, un grand homme, une perle rare, un visionnaire. Il l'avait dit en parlant des banlieues, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. À vomir. Alors, puisque nous, on a de la mémoire, on va revenir sur la carrière politique de Gérard Collomb, ancien de l'aile droite du PS, très ami et pote de Strauss-Kahn, Emmanuel Valls, puis macroniste des premières heures. Homme nu, des politiques sécuritaires, racistes, islamophobes, ultralibérales, des copinages avec le grand patronat et des mandats politiques en veux-tu en voilà. Il y a vraiment de quoi dire. Alors déjà, Colomb, c'est un cumulard hors pair. Il a souvent été le champion des plus gros cumulards de France. Maire de Lyon de 2001 à 2017, puis de 2018 à 2020. Une première fois député en 81, plusieurs fois conseiller municipal, mais surtout sénateur de 1999 à 2017, président de l'agglomération de Lyon de 2001 à 2015, puis de la métropole de 2015 à 2017. En parallèle de ses trois mandats pendant quasiment 20 ans, il a présidé la plupart des sociétés d'économie mixte, public-privé de Lyon, notamment dans les aménagements urbains, les transports en commun, les hôpitaux et beaucoup d'autres. Certaines années, c'est pas moins de 22 mandats différents qu'il occupait, avec tous ses cumuls de salaires, ses avantages et ses privilèges. Colomb, c'est un homme de réseau. Il navigue en permanence entre les grands patrons lyonnais, les socialistes, les centristes de tous bords et la droite la plus dure. Une partie de ses réseaux se fait d'ailleurs via la loge maçonnique Grand Orient de France ou les clubs lyonnais et parisien bien sûr. Ce que l'on peut retenir de sa politique municipale et métropolitaine, c'est d'avoir fait de la ville de Lyon l'une des villes les plus vidéosurveillées de France. La ligne très sécuritaire et ultra-libérale de Colomb a œuvré de manière acharnée contre les squats, contre les travailleurs et travailleuses du sexe, contre les grèves, pour la gentrification des quartiers populaires, pour le développement du détestable quartier d'affaires de la Part-Dieu. Et j'en passe. Colomb, c'est aussi la mise en place de ce mastodonte qu'est la métropole de Lyon, unique en France. Née en 2015 et faisant suite à la communauté urbaine de Lyon, la métropole exerce les compétences d'une métropole française, mais aussi et surtout celle du département, phagocytant ainsi en partie les budgets du reste du département du Rhône et ayant un pouvoir politique considérable sur les 59 communes qui en dépendent. On retiendra notamment, et c'est d'ailleurs toujours le cas, la maltraitance raciste que la métropole de Lyon fait subir aux jeunes mineurs isolés étrangers qu'elle laisse volontairement à la rue chaque année. Et, à nouveau, la politique anti-squat qu'elle a menée et qu'elle mène encore aujourd'hui, entre autres choses. Et puis Colomb, ça a aussi été l'un des principaux piliers du macronisme et d'Emmanuel Macron. C'est en partie grâce à ses réseaux que La République En Marche a trouvé les financements et les soutiens de la campagne de 2017. Alors pour le remercier, Macron l'a mis ministre de l'Intérieur. Et on s'en rappelle aussi. En tant que ministre de l'Intérieur, Colomb n'a rien eu à envier aux Darmanins qu'on connaît aujourd'hui. Loi raciste, asile et immigration en 2018, déjà, pour expulser plus, stigmatiser plus, enfermer plus. Loi islamophobe et sécuritaire, dite renforçant la lutte contre le terrorisme, en 2017, qui a institué en norme l'ancien régime d'exception qu'était l'état d'urgence. Renforcement considérable des pouvoirs et de l'impunité de la police. Matraquage en règle des mouvements sociaux, avec notamment le carnage de la ZAD en avril 2018. On se rappelle aussi des attaques policières racistes régulières, sous Colomb, à Calais, contre les migrants et les migrantes, mais aussi contre les associations humanitaires. Et puis, bien sûr, entre autres, pour finir, couvrir le fameux Alexandre Benalla, avec l'affaire du même nom, qui le fera notamment tomber du gouvernement. De retour à Lyon, il se heurtera aux velléités émancipatrices de ses anciens dauphins, notamment David Kimmelfeld, et il finira par s'allier aux républicains de la droite la plus dure pour défier ses anciens dauphins aux élections municipales et métropolitaines et finalement perdre la mairie et la métropole au profit des non moins droitiers élus d'Europe Écologie Les Verts. Bref, évidemment, cette liste est non exhaustive et il y aurait encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire sur les différents mandats qu'a cumulé Gérard Colomb tout le long de sa carrière politique. Mais pour conclure, nous, ce qu'on peut dire, c'est que Gérard Colomb, on n'oublie pas et on pardonne pas.
On enchaîne tout de suite avec les brèves.
Et du côté du Québec d'abord, une grève massive secoue la région depuis le 21 novembre. Ce sont rien moins que 420 000 salariés du secteur public se sont mis donc en grève, paralysant services de santé, services sociaux et système scolaire. Personnel hospitalier, enseignants des écoles publiques et autres travailleurs du secteur public ont dressé des centaines de piquets de grève en 3 jours et se sont rassemblés par milliers pour des rassemblements et des manifs. Contre la proposition du gouvernement de n'augmenter les salaires que de 10,3% sur 5 ans, contre cela, les mots d'ordre du mouvement sont clairs. Augmentation des salaires supérieurs à l'inflation, investissement massif dans les systèmes de santé et d'éducation publique et amélioration des conditions de travail. Bénéficiant d'un large soutien populaire et médiatique pour l'instant, ce mouvement fait peur au gouvernement de la coalition Avenir Québec, ouvertement pro-patronale. Aurait-on affaire à un début de grève générale ? C'est possible. Le conflit pourrait-il s'étendre à d'autres secteurs et se durcir ? C'est également possible. En tout cas, c'est ce que craignent les bureaucraties syndicales portées par le Fonds commun, qui, elles, se sont bien vite installées à la table des négociations.
Emmanuel Macron s'est-il converti à l'écologie? Le roi telet des Français s'est déplacé vendredi dernier dans le Jura à l'aide de son jet présidentiel pour planter un arbre. Une opération de piètre communication politique qui ne fera pas oublier la fameuse politique du « en même temps » de Macron. En même temps qu'il se déplace en avion pour planter un arbre, le même président fait raser des arbres dans le sud-ouest de la France en réprimant les opposants aux grands projets inutiles. En même temps, Macron n'est pas opposé à la prolongation du glyphosate pour 10 ans et a réclamé une pause dans la réglementation européenne sur les normes environnementales. En même temps, Emmanuel Macron soutient les chasseurs. En même temps, il a décoré le PDG de Total qui multiplie les projets écocidaires. Et, toujours en même temps, il a tenté, mais bien heureusement lamentablement échoué, de dissoudre les soulèvements de la Terre, le plus grand mouvement écologiste du pays.
Après une grève de 24 heures mercredi dernier pour rappeler qu'ils sont toujours contre la réforme des retraites, la CGT Port et Doc lance maintenant un appel à débrayer le 30 novembre pour la fin des attaques israéliennes sur la bande de Gaza, comme avant eux les dockers d'autres pays comme l'Espagne ou encore les États-Unis.
Depuis jeudi, des émeutes racistes ont lieu à Dublin, la capitale de l'Irlande. L'élément déclencheur est immédiatement instrumentalisé, c'est l'attaque au couteau d'un homme d'une cinquantaine d'années d'origine étrangère, manifestement pas du tout dans un état normal et dont la police a d'ailleurs écarté tout motif terroriste, chose quasi impensable en France, soit dit en passant. Depuis, des groupes d'extrême droite issus de l'hooligalisme et de groupuscules néofascistes ont attaqué des centres d'accueil pour exilés, incendié des hôtels, faisant virer à l'émeute raciste des manifestants complètement déjantés au cri de « Irish Lives Matter »,« Ireland is full » et « Get them back » dans une Irlande majoritairement blanche et catholique qui subit de plein fouet les crises économiques successives où la crise du logement est d'une violence inouïe et qui n'est pas prête de s'arrêter. On espère que ces émeutes, elles, racistes, vont s'arrêter.
Voté le 14 novembre au Sénat, le projet de loi immigration sera maintenant étudié et amendé à l'Assemblée nationale et devra ensuite être validé par le Conseil constitutionnel. Cette 117e loi sur l'immigration depuis 1945 a de forts relents d'extrême droite, mais ne semble pas aller assez loin pour les députés LR qui montrent déjà leur volonté de porter le texte encore plus à droite à l'Assemblée. Durcir l'accès au titre de séjour, précariser et rendre la vie encore plus impossible aux étrangers présents en France. Les sénateurs n'ont déjà pas manqué d'imagination pour faciliter les OQTF et faciliter les expulsions. En sous-traitant l'extrême droitisation de son texte au sénateur LR, Gérald Darmanin pourra donc continuer de jouer sur les deux tableaux, hein, en essayant d'une part de ménager ses députés attaché aux régularisations dans les métiers en tension, tout en accordant à la droite les pires concessions. A noter que 20 sénateurs renaissants sur 22 ont voté pour la version du texte au Sénat, faisant ainsi apparaître une ligne politique de plus en plus commune à droite, de la Macronie jusqu'au Rassemblement national.
La grève chez Emmaüs tient bon dans le Nord. Donc oui, on salue la grève qui dure maintenant depuis 5 mois chez Emmaüs dans le Nord, et ce, malgré une violente répression. Donc au 27 novembre, ça fait 150 jours que les travailleurs et travailleuses de 5 communautés Emmaüs dans le Nord sont en grève, soutenues par la CGT. Donc on en avait déjà parlé un peu ici, mais les travailleurs et travailleuses d'Emmaüs se sont mis en grève en juillet dernier pour demander un salaire décent et de meilleures conditions de travail. Le comble, hein, pour un mouvement initié par l'abbé Pierre, dont l'un des objectifs est d'accueillir les personnes précaires et permettre une insertion, voire une régularisation par le travail. Les travailleurs et travailleuses dénoncent donc des salaires dérisoires, entre 150 euros et 380 euros par mois pour 48 heures de travail par semaine, peu de vacances annuelles, c'est-à-dire si t'as une semaine, t'as de la chance, et un travail pénible, tout ça permis par un statut de travailleur solidaire. Certains et certaines dénoncent donc un travail dissimulé et une exploitation. Des plaintes avaient été déposées pour traite d'humains et travail dissimulé, à quoi s'ajoutent également des violences racistes et des humiliations récurrentes, prétextant la régularisation pour maintenir la pression sur le travail. Donc le discours qui est tenu, c'est travail en échange d'une régularisation. Et c'est pour toutes ces raisons que les travailleurs et travailleuses sont donc en grève depuis début juillet. Mais face à la persistance du mouvement de grève et au courage des grévistes, la préfecture a fait appel aux forces de l'ordre. Donc en effet, le patronat a le soutien total de la préfecture du Nord, qui est connue pour ses positions d'extrême droite. Les forces de l'ordre sont donc intervenues violemment le 23 novembre à la halte Saint-Jean dans les habitations des grévistes. Et lors de cette intervention, la caisse de grève a été saisie, gazage et tabassage en présence des enfants, après avoir été retenus de longues heures dans les locaux. Les grévistes et donc la CGT exigent depuis dans un communiqué que le gouvernement mette fin à une logique de répression aveugle du préfet. Ils exigent aussi la restitution immédiate du matériel syndical, de la caisse de grève, l'arrêt des violences et de l'intimidation, ainsi que le respect du droit de grève. Donc en tout cas, soutien aux grévistes d'Emmaüs et toutes ces exploitations réalisées par les associations, ça nous donne un petit aperçu de l'étendue du travail gratuit qui promet de s'aggraver avec la réforme France Travail ou quand les flous juridiques et statutaires permettent l'exploitation et suppriment toute forme de droit du travail.
Et on passe tout de suite au...
International.
Avec des chroniques qui nous viennent du coup sur la situation en Palestine de la part du collectif Palestine 69.
Alors, la question où en est Israël dans son offensive terrestre, elle en est nulle part à vrai dire. Comme on l'a dit lundi dernier chez vous, Israël avance simplement avec des intentions génocidaires. Donc avec l'intention d'épurer ethniquement la population de Gaza, avec l'intention de la massacrer et surtout de forcer une déportation de la totalité des Gazaouis vers l'Égypte ou vers d'autres endroits dans la région pour pouvoir réoccuper la bande de Gaza entièrement. Mais d'un point de vue militaire, Israël n'avance pas. Il n'y a d'ailleurs quasiment aucune communication officielle sur des meurtres de soldats du Hamas ou autres. Par contre, Israël utilise la censure militaire sur ses propres pertes. Elle avance en se justifiant que, par exemple, sous l'hôpital de Shifa, il y avait un quartier général du Hamas. Il n'y a évidemment à l'heure actuelle aucune preuve de ça. Bien à l'inverse, il y a des preuves du fait que les souterrains en dessous de l'hôpital de Shifa ont été construits par une entreprise israélienne il y a plusieurs années lors de la dernière occupation de Gaza par Tsahal. La disposition des armes retrouvées à Shifa a été aussi mise en scène. Alors la trêve, elle a été négociée par l'intermédiaire du Qatar et l'Égypte, qui sont fait l'intermédiaire entre le Hamas et l'État sioniste d'Israël. Elle a pris lieu vendredi. Du coup, il faut savoir qu'à l'annonce de cette trêve, de nombreux Gazaouis ont voulu retourner chez eux, vers le nord, hein, puisque plus d'un million de Gazaouis avaient dû quitter leur espace de vie pour aller vers le sud, soi-disant sûr, alors que tout autant bombardé que le nord. Et qu'il y avait également des centaines de Gazaouis qui étaient bloqués côté égyptien depuis 7 octobre et qui ont pu rentrer là du coup vendredi grâce à la trêve et qui ont aussi voulu rentrer chez eux vers le nord. Donc au début de la trêve, le gouvernement israélien, en voyant que la population courageuse et résiliente de Gaza voulait retourner chez eux vers le nord, ils ont tiré sur des personnes qui faisaient le chemin vers le nord. Donc je crois qu'il y a eu 2-3 morts et des dizaines de blessés. La trêve avait déjà commencé à ce moment-là. Je pense que c'est une des plus grandes peurs de l'entité sioniste, c'est de revoir la population revenir vers le nord. Après, qu'est-ce qui a été négocié? Il a été négocié que le Hamas libère 50 prisonniers et prisonnières contre 150 prisonniers et prisonnières palestiniens. Ça, à ma connaissance, c'est en cours et c'est respecté. Par contre, c'est extrêmement nuancé dans le fait que l'État d'Israël a interdit, imaginez bien, toute célébration des familles des prisonniers palestiniens et palestiniennes. Ils sont allés jusqu'à gazer les familles qui les attendaient devant les prisons en voiture. Ils sont allés jusqu'à confisquer des gourmandises, des pâtisseries à la famille des prisonniers qui les attendaient dans les rues de Ramallah ou Naplouse. Voilà, donc en fait c'est l'occupation, même dans ces brefs moments de joie et encore de joie, un peu d'enthousiasme et de liberté pour les Palestiniens, même ces moments-là sont extrêmement contraints et sont même réprimés. Sur les prisonniers israéliens qui ont été relâchés, alors il y a les vidéos qu'on voit en effet des brigades Al-Qassam qui prennent soin des prisonniers qui leur disent même au revoir avec le sourire, etc. Bon, mais même en allant plus loin que ça, d'un point de vue médical, tout l'état de santé de tous ces prisonniers et prisonnières ont été jugés comme satisfaisants. Aucun de ces prisonniers et prisonnières n'ont été abusés, que ce soit physiquement, même mentalement. Ils sont même repartis avec des vivres, de l'eau, de la nourriture. Et après, bon, il suffit d'accumuler de toute façon les discours de ces prisonniers et de ces prisonnières qui sont relâchés, qui concordent sur le fait qu'on a pris soin d'eux, en fait. C'est juste pour mettre en opposition Ça et, comment sont traités, par contre, de leur côté, les prisonniers et prisonnières palestiniennes. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un jeune Palestinien est mort dans les prisons israéliennes simplement pour avoir demandé s'il allait être libéré pendant la trêve. On l'a roué de coups. On l'a laissé une heure et demie en attente d'un médecin. On a appelé le médecin qu'au bout d'une heure et demie, quand le médecin est arrivé, le jeune était mort. Dans toutes les semaines, des prisonniers et des prisonnières palestiniennes meurent en prison. Soit parce que les geôliers font exprès d'aggraver leur état de santé et tardent l'arrivée d'une assistante médicale, soit parce qu'ils sont torturés ou battus à mort. Les points de vue sont concordés, même que ce soit les points de vue internationaux, même les journaux de gauche israéliens, sur le fait que cette trêve est une victoire militairement pour le Hamas, dans le sens où Israël n'a atteint aucune cible militaire. Le Hamas a montré qu'ils avaient une intelligence, une diplomatie supérieure à l'état d'Israël. Et surtout que, a priori, d'un point de vue du terrain, le Hamas contrôle en fait encore tout Gaza. Alors, ils sont peut-être pas partout dans Gaza, ils ont peut-être pas la force d'être partout, mais là, on l'a vu, rien que les voir à Gaza avec le croissant rouge, se montrer librement lors de la libération des otages, que militairement, le Hamas semble aller très bien. Donc, on peut dire aussi que c'est un moment de soulagement pour la population civile, parce que c'est elle qui est le plus victime de l'attaque et de l'agression militaire d'Israël. Donc c'est 4 jours de répit qui va permettre à la population de retrouver des vivres, de pouvoir satisfaire à nouveau leurs besoins primaires, bien qu'on ne reconstruit pas évidemment 40 000 structures en 4 jours, qu'on ne remet pas d'aplomb les dizaines d'hôpitaux qui ont été détruits, qui manquaient d'électricité, qui manquaient de carburant. Donc c'est vraiment un très 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 court répit pour la population civile de Gaza. Quand même, le nombre de 150 prisonniers et prisonnières libérés est symbolique. Il n'est pas symbolique individuellement pour chaque personne qui doivent ressentir une immense joie, mais il est symbolique au niveau des chiffres, parce que rien que dans la nuit d'hier, dans la nuit dernière, plus de 60 Palestiniens et Palestiniennes ont été arrêtés en Cisjordanie. Donc en fait, certes, ils en libèrent 150, ils en arrêtent 60 la nuit d'après, et sûrement le même nombre la nuit prochaine. En ce moment, Israël remplit ses prisons. Donc le nombre de 150 est vraiment symbolique sur les plus de 6500 prisonniers et prisonnières qui remplissent les prisons de l'entité terroriste d'Israël. Sur le plan militaire, c'est que évidemment que la situation s'étend et n'est pas simplement fermée dans la bande de Gaza, puisque les rebelles yéménites, les Houthis, essayent d'exercer un contrôle sur la mer Rouge afin de freiner militairement Israël et même économiquement. Donc ils ont déjà intercepté 2 ou 3 bateaux avec prise d'otages, etc. Depuis la mer Rouge, le Yémen aussi envoie nombre de roquettes et de missiles sur la colonie israélienne Eliat. Il y a évidemment le Hezbollah qui exerce au nord. Il y a une vraie escalade en plus des échanges avant la trêve. Et il y a aussi plus de 75 attaques recensées sur les bases américaines en Irak, Syrie, depuis le 7 octobre. Donc c'est comme ça que la résistance irakienne et syrienne apporte son soutien à Gaza, c'est en attaquant les bases américaines. Et les USA ont même communiqué sur à peu près 600 soldats qui ont été touchés par l'attaque de leur base américaine. D'un point de vue international, ce qui est rassurant, c'est de voir que les gens ne se laissent pas avoir par cette trêve. Ils savent de quoi est capable l'entité sioniste par la suite. Donc les mobilisations continuent, hein. Il suffit de se brancher sur les réseaux sociaux pour voir les manifs gigantesques partout dans le monde encore ce week-end, hein, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tokyo, etc., en France. À Lyon, on a fait un rassemblement qui a rassemblé beaucoup de personnes avec des très beaux discours de Palestiniens et de Palestiniennes de Lyon. Et surtout qui appelait à la manif de samedi prochain. Du coup, on espère attendre des dizaines de milliers de personnes. C'est important aussi de rappeler qu'il y a tous les jours beaucoup de gens qui luttent sur le terrain, que ce soit en France, pareil, en divers pays européens, en Afrique, au Maghreb, etc. Condamnant tous les soutiens aux sionistes, donc avec des actions de boycott, des actions appelant au boycott, des actions de collage, de stickage. C'est tous les jours. Encore hier, il y avait des milliers de juifs et de juives anti-sionistes qui bloquaient la gare centrale à New York. Donc voilà, c'est souvent la mobilisation internationale, elle répond présente. Et c'est très 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 important moralement et mentalement pour les Palestiniens et les Palestiniennes que de voir ça.
Voilà, c'était un point sur la situation à Gaza et on écoute tout de suite une rappeuse de Gaza qui s'appelle Etija avec son morceau Bala Ajdoud. C'était donc la rappeuse palestinienne Etija. On est toujours à l'international, vous êtes toujours sur Radio Canu et on écoute un sujet maintenant sur l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite aux Pays-Bas.
Oui, ou le jeu de la normalisation de l'extrême droite. Donc en effet, mercredi 23 novembre dernier, le PVV, Parti de la Liberté de Geert Wilders, a donc remporté les élections législatives du Parlement néerlandais avec 36 sièges sur 150, donc sans compter aussi les sièges à d'autres partis d'extrême droite. Et donc sur quel programme le Parti des Libertés a fait campagne pour s'assurer une victoire? Évidemment, un programme largement xénophobe et anti-musulman. Alors quelques propositions phares de sa campagne: le gel de l'asile, une politique migratoire plus restrictive et un exit, soit l'organisation d'un référendum pour sortir de l'Europe. Donc comme son programme le laisse deviner, Geert Wilders est à la tête d'un parti populiste et profane un discours anti-immigration, anti-islam, ce qui lui vaut le joli surnom, non sans surprise, de Donald Trump néerlandais. Et donc voilà, c'est un Donald Trump supplémentaire sur cette planète. Donc pour en revenir un peu au personnage de Geert, il a également été condamné en 2016 pour discrimination après des déclarations racistes envers des Marocains, ce qui ne l'a pas empêché de gagner des voix pendant les élections. Il est également partisan de l'interdiction du voile dans les bâtiments gouvernementaux et souhaite remettre en place un visa pour les travailleurs et travailleuses ressortissants et ressortissantes de l'Union européenne. Pendant sa campagne, il a également proposé de fermer les mosquées et d'interdire le Coran, des projets sur lesquels il est revenu en fin de campagne dans l'espoir de pouvoir négocier une coalition avec les autres partis. En effet, négociation pour une coalition, car traditionnellement, le ou la chef du parti arrivé en tête des législatives est chargé de composer un gouvernement. Mais face à une forte fragmentation donc du paysage politique néerlandais, il et elle sont contraints de négocier pour faire émerger une coalition. Donc c'est donc l'enjeu où va se situer l'enjeu pour Geert Wilders, donc réaliser une coalition. Donc après le grand bal des revirements dans les discours et dans les positions des différents partis, donc par exemple le VDD, donc de centre droit, avait notamment affirmé pendant la campagne ne pas exclure de coalition avec le PVV, donc le Parti de la Liberté. Donc maintenant tous ces partis là sont revenus et refusent de gouverner avec le PVV. Seconde impasse aujourd'hui dans les négociations, l'homme désigné par l'extrême droite Gomvin Strien, donc vous m'excusez ma prononciation, a démissionné aujourd'hui suite à des accusations de fraude au sein de son ancienne entreprise. Cela donc, ça va donc rendre la tâche difficile pour le dirigeant du PVV et on souhaite évidemment que cette coalition n'aboutisse pas. Néanmoins, le résultat de cette élection ainsi que la position ambiguë de certains partis pendant la campagne, comme le VVV dont je viens de VVD pardon dont je viens de parler, et l'illustration d'une normalisation de l'extrême droite aux Pays-Bas et plus largement dans toute l'Europe. Donc normalisation de l'extrême droite qui a eu cours ces dernières années, donc qui passe notamment par la réappropriation du discours de l'extrême droite dans les différents partis néerlandais. Donc les partis de la droite historique, la chrétienne démocrate ou libérale conservatrice se sont en effet alignés sur les thèmes et propositions du parti d'extrême droite en durcissant leur discours sur l'immigration pour évidemment séduire l'électorat. Donc sous prétexte d'une stratégie dite de contention électorale de l'extrême droite par réappropriation du discours, c'est-à-dire l'idée de reprendre les idées d'un parti, ce qui permettrait d'attirer les électeurs et électrices et donc de contenir la montée dans les élections, le discours de l'extrême droite se normalise, devient légitime dans le discours médiatique et politique. C'est donc l'agenda politique du parti d'extrême droite qui est au centre du débat. Et cette soi-disant stratégie de contention de l'électorat, qui cache en réalité des idéologies racistes et xénophobes, participe aussi à une forme d'uniformisation des discours. C'est l'idée qu'il y a seulement un seul bloc dans les partis de droite et les rend donc difficilement différenciables. Qui de mieux pour porter les idées que le parti qui en est à l'origine. Et c'est donc pour cela que le PVV a gardé son électorat tout en récupérant une large partie de l'électorat du VVD et du CDA. Donc les élections aux Pays-Bas feraient donc figure en quelque sorte de cas d'école sur l'échec de cette soi-disant stratégie de contention qui n'est pas sans rappeler le contexte politique français, mais aussi le contexte d'autres pays européens qui ont basculé vers l'extrême droite, comme l'arrivée par exemple de Robert Fico en Slovaquie par exemple. Et donc c'est pas sans rappeler la dangerosité de la normalisation du discours de l'extrême droite par les différents partis politiques qui s'y vit en France, dans toute l'Europe et au-delà.
Et on continue avec un bilan de la grève au Bangladesh.
Oui, puisqu'on ne vous en a pas beaucoup parlé ici, mais pendant 3 semaines, une grève intensive a eu lieu dans les usines textiles au Bangladesh et s'est terminée donc mercredi dernier. Plus de 600 usines ont été concernées, faisant tourner l'industrie au ralenti. La principale revendication portait sur le salaire minimal, précédemment fixé à 8000 takas, soit 65 € par mois, salaire qui était déjà le fruit d'une hausse due à un précédent mouvement de grève il y a 5 ans. Et là, les ouvriers et ouvrières demandaient une hausse à 23 000 takas, soit 190 €. Une demande qui peut paraître énorme puisqu'il s'agit bien plus que de doubler les salaires. Cependant, les 8 000 takas n'ont jamais suffi à permettre de vivre dignement. Et depuis, une inflation qui atteint jusqu'à 200% pour certaines denrées alimentaires et touche des produits de base comme le riz et les lentilles ne suffisent même plus pour se nourrir. Des émeutes ont éclaté principalement à Dhaka lorsque le gouvernement a annoncé un nouveau salaire minimum qui présentait comme déjà une grosse amélioration à 12 500 takas, soit environ 100 €, donc à peine plus de la moitié que ce qui était réclamé. D'après la présidente de la Fédération des travailleurs du textile, ce n'est toujours pas suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux. Les ouvrières et ouvriers ne peuvent survivre que 20 jours mensuels et finissent donc le mois à crédit. Le Bangladesh, c'est plus de 3500 usines textiles où travaillent majoritairement des femmes qui produisent 85% de l'exportation du pays, troisième fournisseur de vêtements après la Chine et le Vietnam. Une grève des travailleuses et travailleurs du textile bangladais a donc un énorme impact. Mais comme plusieurs ministres et des dizaines de députés du parti au pouvoir sont des grands patrons du textile, l'intérêt du gouvernement tend donc à réprimer et éviter les grèves. La police a donc été massivement envoyée dans les usines et dans la rue pour réprimer la colère des ouvrières et ouvriers face à ce que le gouvernement leur demandait, soit donc de travailler, même pas contre de quoi renouveler leur force de travail. Des usines ont été détruites ou brûlées, et du côté de la répression, 4 morts tués par la police, 140 ouvriers et dirigeants syndicaux arrêtés, et plus de 10 000 ouvriers qui font l'objet de poursuites. La grève s'est poursuivie plus de 2 semaines après l'annonce du gouvernement, mais les méthodes du gouvernement et du patronat ont eu raison des grévistes. Au salaire qui reste indécent, il faut s'imaginer aussi des conditions de travail déplorables. Il y a 10 ans, un immeuble s'effondrait et tuait 1100 ouvriers. Et depuis, apparemment, peu de choses ont changé. Ce à quoi il faut encore ajouter une énorme répression syndicale. Ceux-ci sont officiellement autorisés, mais contrôlés par les propriétaires d'usines. Et il n'est pas rare que les tentatives d'organisation soient réprimées par d'obscures milices. En juin dernier, par exemple, un responsable syndical sortant d'une réunion s'est fait tabasser à mort. N'oublions tout de même pas que ceux qui font produire le vêtement au Bangladesh... pour soutenir les grévistes, l'ONG Clean Clothes Campaign avait contacté une douzaine de marques occidentales parmi les plus gros donneurs d'ordre. On compte des entreprises comme Zara, H&M, mais aussi Carrefour. Une seule a répondu et pris position publiquement pour demander que les salariés obtiennent la hausse de salaire qu'elle et ils demandent. On soutient donc évidemment les ouvrières et ouvriers du textile bangladais. On ne souhaite que la fin du capitalisme qui les maintient dans cet état de servitude.
Et on passe tout de suite au...
National.
Quand on vous dit que l'extrême droite est une menace réelle en France, ce n'est pas une lubie de notre part. La preuve, à Romans-sur-Isère ce samedi 24 novembre dernier au soir, où environ 80 néo-nazis sont venus de plusieurs villes de France pour attaquer le quartier populaire de la Monnaie. En surfant sur la mort tragique de Thomas, tué lors d'un bal dans son village de Crépole, près de Romans-sur-Isère, les fachos et leurs relais médiatiques puissants ne cessent de déverser leur propagande raciste et islamophobe à coups de discours de haine et d'appels à la guerre civile. Et oui, c'est bien en France, en 2023, qu'un raid punitif a eu lieu à l'appel de nazillons complètement tarés. Au cri de slogans comme « La France aux Français » ou « Islam hors d'Europe », une bande de fachos a voulu jouer les milices en déclarant la guerre à tout un quartier et à leurs habitants. Mais pas de bol, la riposte était au rendez-vous. Alors que ces abrutis de racistes pensaient tenir le haut du pavé, leur sortie ratonnade s'est vite soldée en déconfiture. Face aux flics d'abord, une vingtaine d'entre eux a été arrêtés. Mais c'est surtout les habitants et les habitantes du quartier qui les ont chassés, c'était la débandade. Ils ont même laissé leurs potes qui ne couraient pas assez vite se faire rattraper et sévèrement corriger. Dans une vidéo tournée par l'un des habitants, on voit que ces deux minables fachos, on voit le téléphone de ces minables fachos et avec des messages appelant justement à la ratonnade et à casser de l'arabe et de l'immigré. À l'initiative de toutes ces opérations, on trouve un certain Léo Rivière Prost, surnommé Gros Lardon, bon nom, qui avait déjà été interpellé pour une autre tentative de ratonnade à Paris en 2022 lors du match France-Maroc. Mais si, à vrai dire, on se réjouit quand même de la raclée que ces connards se sont pris, l'événement révèle lui la multiplication de ces groupuscules de fachos prêts à passer à l'action violente et à appliquer leur fantasme grossier de guerre civile. Le problème, c'est que leur idéologie nauséabonde trouve des relais médiatiques et politiques qui leur donnent une ampleur qu'elle ne devrait jamais avoir. Leurs propos haineux sont par exemple relayés dans les appels à la vengeance d'un certain Ivan Benedetti, porte-parole du mouvement Les Nationalistes, ancien président de l'œuvre française. Ou bien encore par des chaînes de télé comme CNews, où Jean Messia a montré son soutien aux fachos. Ou encore un dernier exemple par le média Livre Noir, qui n'hésite pas à relayer leur propagande d'appel à la guerre civile. Ne soyons pas dupes, c'est pas l'État macroniste soutenu par la bourgeoisie qui va stopper l'avancée du fascisme. C'est l'autodéfense populaire et la riposte coordonnée de toutes les forces antifascistes.
Et puis on va passer au...
Local.
Et on commence avec un sujet sur la répression lycéenne.
Absolument, le vendredi 10 novembre dernier, des feux d'artifice étaient tirés depuis l'extérieur du lycée Lamartinière-Montplaisir, agrémentés d'un feu de poubelle et de trottinette à l'entrée du lycée. L'affaire aurait pu en rester là. C'était sans compter sur la honteuse exploitation médiatique d'un événement lycéen pour faire tourner la rubrique insécurité, au point que même CNews se déplace. La direction du lycée a aussi utilisé une pédagogie bien particulière, hein, celle de la répression. L'élève concerné par le conseil de discipline ainsi qu'un autre lycéen ont été interpellés puis mis en examen pour entre autres violence aggravée et dégradation par moyen dangereux. Sur ces deux élèves du lycée en question, le premier, 16 ans, a été placé en détention provisoire alors que l'autre, mineur également, est placé sous contrôle judiciaire. Il est difficile de ne pas voir dans la réponse judiciaire et politique aux événements du lycée Lamartinière-Montplaisir une traduction en acte de la réponse radicalement répressive de l'État au service de son obsession pour la rééducation des jeunes qui n'auraient pas intégré les valeurs de la République.
Et on va parler maintenant de la grève des livreurs qui aura lieu la semaine prochaine. On leur donne tout de suite la parole.
Local.
C'est Alan, je suis syndiqué à la CGT Livreur de Lyon et je travaille pour Uber Eats et Deliveroo. Pour le contexte, là récemment, Uber Eats, ils ont passé un accord avec plusieurs syndicats, mais pas la CGT qui a refusé cet accord, où en gros, Uber Eats promet une tarification horaire, du coup un minimum par heure, environ 11 euros par heure. Sauf que cette tarification horaire, elle prend pas en compte le temps de trajet pour aller récupérer la commande au restaurant. Il prend pas en compte le temps d'attente au restaurant. Et plus généralement, il prend en compte que quand on reçoit des commandes. Du coup, l'autre souci que ça pose, c'est que en faisant ça, ils peuvent se dédouaner du montant des tarifs des commandes singulières en disant bah de toute façon vous allez être compensé grâce au montant horaire. Et du coup, ce qu'on voit depuis fin octobre, début novembre, c'est que les commandes elles cessent pas de baisser et que derrière il n'y a pas la compensation promise. Du coup voilà, depuis 3 semaines, 1 mois, il y a des mouvements de grève qui sont partis du nord où la tarification elle s'est d'abord appliquée et elles sont étendues à toute la France. Là, ces 3 dernières semaines, on a eu plus de 70 villes qui étaient en grève. Et du coup, à partir de là, on a commencé à se coordonner et on a décidé pour un week-end de grève nationale le 2 et 3 décembre. Du coup, Deliveroo, on n'a pas eu de retour de Deliveroo. Uber Eats a contacté la CGT pour entamer une sorte de négociation avec nous. Mais du coup, les termes de la négociation, ils étaient déjà pas très bien, dans le sens où ce qu'ils nous ont dit, c'est « Oui, on voudrait échanger avec vous pour pouvoir rassurer les livreurs sur la nouvelle tarification. » Nous, ce qu'on a répondu, c'est que les livreurs, ils n'ont pas besoin d'être rassurés. Ils ont besoin que les tarifications augmentent, que les cotisations soient versées par Uber Eats, que les accidents de travail soient pris en compte, tout un tas de trucs que Uber Eats y refuse catégoriquement de faire. Pour nous, ils nous ont demandé des rendez-vous avant la grève du 2 et 3 décembre. On a été très clair dans dire qu'on ne voulait pas négocier avant, parce que les termes de la négociation, ils n'étaient pas adaptés. Nous, notre première revendication, c'est que la tarification soit retirée immédiatement. Et après cela, on pourrait commencer des négociations qui aboutiraient à un accord, mais pas sans que la tarification soit retirée. Sur Lyon, il n'y a pas encore d'endroit précis, mais ça ne va pas tarder à être public. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir un des 2 jours, plutôt le samedi, un grand convoi où tous ensemble, on traverserait la ville pour aller voir les livreurs qui ne sont pas en grève. Et ensuite, tout le reste du week-end, être dispersé dans toute la ville pour être devant les restos et aller voir les collègues qui veulent quand même prendre des commandes, essayer de les convaincre à ne pas travailler. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, il y aura d'autres dates après ce week-end-là.
Ok. Et sur les autres mouvements de grève des livreurs qu'on a déjà eu dans le passé, il y a eu un peu de la répression. Il y a des gens qui s'étaient fait virer des plateformes. Est-ce que là, ça a été le cas?
Alors, ça a été le cas un peu à Montpellier, où surtout Deliveroo, il me semble, a bloqué Deliveroo pendant 1 journée pour après les débloquer le lendemain. En fait, il se base sur les gens qui restent fixes sur un point et qui refusent systématiquement chaque commande. Pour des livreurs qui nous écouteraient et qui veulent rejoindre le mouvement de grève, on sera dispatché sur plusieurs points, devant plusieurs restos pendant toute la semaine prochaine et surtout le week-end du 2 et 3. Mais si vous voulez prendre contact avec nous plus tôt, on a une page Facebook CGT Livraison de rue Lyon et également une page Instagram avec le même nom.
C'était donc un interview d'un livreur sur le mouvement de grève et on passe tout de suite à l'interview de notre fin d'émission.
Donc aujourd'hui, on accueille Sandrine de la CGT Pôle emploi. Déjà, merci d'être là pour nous expliquer, nous parler un petit peu de ce qui va nous arriver, ce fameux France Travail dont on a déjà pas mal parlé. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce France Travail, puisqu'il vient pas de nulle part. Là, on est aujourd'hui à Pôle emploi. Quelles sont les étapes qui nous ont amené aujourd'hui à cette loi France Travail ?
Oui, donc déjà bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille à Pôle emploi, je suis syndiquée à la CGT et mon travail consiste à calculer les droits à l'assurance chômage. Et donc cette réforme en profondeur en fait du service public de l'emploi arrive dans un contexte bien particulier où après plusieurs décennies en fait de réforme assurance chômage, le montant des droits des chômeurs ainsi que la durée a fortement diminué suite notamment à la réforme de 2019 qui a pénalisé essentiellement donc les personnes précaires puisque les droits ont été parfois divisés jusqu'à 40%. Et on arrive comme par hasard à une réforme qui va dans un même réseau rassembler donc les bénéficiaires du RSA, mais également aussi les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Avec donc les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage, à un moment où l'accumulation de toutes les réformes a tellement baissé le droit des chômeurs que le montant moyen de l'assurance chômage se rapproche en fait des minima sociaux. Donc il y a encore 3 ans, le montant mensuel moyen en fait de l'allocation chômage était à hauteur de 1100 euros. Donc ouais. L'allocation moyenne. Et aujourd'hui, après les différentes réformes, on arrive à près de 900 euros. Ce qui veut dire que l'écart entre les minima sociaux, par exemple le RSA, qui est de l'ordre de 600 euros, se réduit avec l'allocation chômage. Et c'est même l'allocation chômage se rapproche même du montant de l'allocation adulte handicapé. Donc en fait, au niveau de la CGT Pôle emploi, déjà, la première alerte qu'on donne, c'est que l'arrivée de France Travail avec cette réforme en profondeur peut aboutir à la suppression du RSA tel qu'on le connaît et de l'assurance chômage tel qu'on la connaît et peut-être même à la fusion de toutes ces allocations.
Alors, quelle est la logique fondamentale de France Travail ? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de fusionner un certain nombre de services ? Et qu'est-ce qui va nous arriver un peu, notamment pour les chômeurs et les chômeuses ?
Alors, l'objectif, en fait, du gouvernement, qui a été annoncé hein, dès la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, l'objectif plein emploi. Donc, dès septembre 2022, ont été annoncés une multitude de réformes qui se sont enchaînées, la réforme retraite, la réforme des lycées professionnels, la réforme assurance chômage, puisqu'il y en a encore une autre qui est en cours actuellement, la réforme également donc lycée pro, je l'ai dit, et aussi en lien avec la réforme de la loi en fait immigration. Le point commun qui est actuellement en cours de débat est bien sûr la réforme France Travail qui a été votée, enfin la loi qui a été votée le 14 novembre, et le point commun de toutes ces réformes, c'est l'objectif plein emploi, c'est-à-dire faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps et toute personne ne doit pas rester que toute personne est employable. Donc Olivier Dussopt avait dit nul n'est inemployable, donc faire travailler les gens coûte que coûte, quelle que soit leur situation par rapport à la santé ou par rapport à leur situation sociale, donc faire travailler tout le monde de 14 à 67 ans hein, avec la réforme de retraite, donc plus longtemps, et y compris les immigrés ou les migrants plutôt, enfin les migrants qui, avec la loi immigration actuelle, donc est débattu un titre de séjour pour coller en fait à des emplois dits en tension, et donc contraindre tout ce monde-là de 14 à 67 ans à travailler dans des emplois non choisis pour répondre aux besoins locaux des entreprises.
Alors, à quelle sauce vont être mangées toutes ces personnes qui sont censées être employables, puisque c'est un peu ça l'idée de France Travail, c'est de mettre tout le monde dans le même bain, tout le monde dans le même sac, quel que soit leur statut, toute personne employable va devoir répondre d'une certaine manière à cette entité et cette seule entité que va être France Travail en termes d'employabilité.
Alors déjà, ce qu'on a découvert quand la loi a été votée, mais un petit peu avant, avec le travail de la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, il y a un piège. Le piège tendu, c'était de agiter le chiffon rouge des bénéficiaires du RSA, vu comme des personnes qui profiteraient du système et qui seraient oisives, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Hein. Ça correspond à un fantasme, notamment porté de longue date par l'extrême droite. Et en fait, le piège de France Travail, c'est que en agitant ce chiffon rouge, donc c'est vrai que ça a été pas mal de... Nous, on a été quand même un peu étonnés de voir que une réforme de cette ampleur, en fait, n'atteint pas un niveau de contestation comme la réforme des retraites. Et que le piège qui a été tendu, c'est que finalement, la contrainte des 15 heures d'activité va s'appliquer à tous. Quelle que soit en fait sa situation, que l'on ait en fait l'allocation chômage, le RSA, l'allocation adulte handicapé ou même non indemnisé, toute personne recensée, parce qu'on n'ose même plus maintenant parler de chômeurs en fait, puisque toute personne en fait qui vont être recensées à Pôle emploi, dès lors qu'elles ont accès à une allocation, devront être systématiquement, méthodiquement inscrites à Pôle emploi, de gré ou de force.
Et alors, ces 15 heures minimum, ou plus ou moins 15 heures, plus souvent plus que moins d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être exactement en termes de d'heures, en termes d'emploi, en termes de d'activité ?
Alors, à ce niveau-là, la loi, en fait, elle est très... c'est ça qui est dangereux d'ailleurs, qui est encore plus dangereux. Bon, déjà, la loi, elle a été votée dans un contexte de procédure accélérée, donc ce qui est totalement... dans la lignée antidémocratique
du gouvernement 49.3.
Donc, dans une procédure accélérée qui a minimisé les débats autour de rendre conditionnel des droits donc par rapport à une contrainte d'activité. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la loi qui a été votée, donc c'est la notion d'activité. Donc ce n'est pas la notion de travail salarié. Pour autant, en fait, la notion d'activité est tellement large qu'elle va être affinée par décret, ce qui veut dire que ça ne sera pas du tout débattu donc à l'Assemblée nationale, et que en fait, le gouvernement pourra, de manière unilatérale, mettre à l'intérieur de ses activités ce que bon lui semble, puisque ce sera voté par décret.
Et alors, si la personne employable ne respecte pas ce quota d'heures d'activité, de travail caché, gratuit, qu'est-ce qui se passera ?
Alors, en fait, donc il y a toute une armada de sanctions, hein, qui donc déjà va s'accompagner avec la mise en place de France Travail, la refonte de la notion de sanction. Donc ça a été annoncé. Donc on attend de voir ce qu'il en retourne. Ce qu'on sait, c'est que depuis 2018 a été mis en place en fait une plateforme de contrôle de recherche d'emploi. On appelle ça une plateforme CRE, qui est complètement déconnectée en fait du réseau et du terrain. Donc ce sont des plateformes où les personnes ne rencontrent pas directement les chômeurs. Et il a été annoncé que la gestion de la liste, c'est-à-dire tous les dispositifs de radiation en cas de manquement à certaines obligations, ce serait donc ça disparaîtrait du champ de compétences de l'agence. Donc aujourd'hui, ce sont des décisions qui sont quand même prises au niveau de l'agence, donc au plus près, on va dire, des usagers. Et là, en fait, ça va disparaître et ces décisions-là vont être prises, elles vont s'éloigner et elles vont être prises donc en dehors de la réalité du terrain et elles vont être prises donc par les plateformes de contrôle de recherche d'emploi. Et aussi, se créer également une nouvelle sanction qui n'existait pas auparavant, qui est la sanction remobilisation, c'est-à-dire que une personne qui ne signerait pas un contrat d'engagement, puisque c'est un contrat d'engagement qui sera assigné par toutes les personnes inscrites à France Travail à compter de janvier 2024. Donc si les personnes ne signent pas ce contrat d'engagement, ou si les 15 heures d'activité, donc c'est un minima, hein, 15 heures, ils l'ont voté comme étant un minima, les 15 heures ne seraient pas en fait au rendez-vous, à ce moment-là, en fait, il y aurait une suspension de droit avec le maintien de l'inscription. Donc ça aussi c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, quand il y avait des suspensions de droit, en fait, les personnes n'étaient plus inscrites. Mais là, on maintient la pression, les personnes restent inscrites, elles continuent à avoir ce suivi jusqu'à ce qu'elles changent d'avis et qu'elles, entre guillemets, obtempèrent et qu'elles retrouvent leurs droits avec une rétroactivité possible de 3 mois.
Alors, on a l'impression un peu que ça se rapproche des job centers, un peu le modèle allemand, qui a vraiment un outil de coercition et qui a engendré à l'époque où ça a été mis en place au début des années 2000 et renforcé un peu par des lois successives jusqu'au début des années 2010, ça a engendré des millions et des millions de travailleurs et de travailleuses pauvres, pardon. Est-ce que c'est un peu ça l'objectif de France Travail ?
Oui, alors déjà il faut savoir qu'on arrive à un contexte où les effets de la réforme, tout à l'heure j'ai dit que le montant moyen a été ramené de 1100 à 900 euros de l'assurance chômage, mais en fait il faut savoir qu'on était avant ces réformes-là à un chômeur sur deux indemnisé. Aujourd'hui, au moment de la création de France Travail, c'est seulement un tiers des chômeurs qui sont indemnisés. Donc déjà, il y a une grosse pauvreté qui est en train de s'installer. Et France Travail, en fait, va achever d'enfoncer le clou en libéralisant et en détruisant, en fait, la protection sociale qu'est l'assurance chômage, hein, qui découle quand même du programme du Conseil national de la résistance, donc qui était donc une caisse solidaire commune, un salaire différé pour couvrir un risque de la vie, voilà, et notamment celui de la perte d'emploi et vivre dignement entre deux emplois. Et là, donc, avec l'arrivée de France Travail, c'est en fait coûte que coûte, en fait, faire coûte que coûte accepter aux personnes en fait en recherche d'emploi, coûte que coûte accepter un emploi pas qualifié, un emploi mal payé, en fait, donc parce qu'en fait les métiers en tension, il y en a pas vraiment. La vérité qui se cache derrière les métiers en tension, c'est des mauvaises conditions de travail avec un turnover où les gens ne restent pas longtemps tellement que les conditions de travail sont difficiles. Et on se rapproche effectivement du système allemand et anglais, anglo-saxon, parce qu'en fait on conditionne également la durée des droits par rapport à la conjoncture économique. Donc ça, c'est en œuvre depuis la dernière réforme. Ça veut dire que les droits sont baissés tant qu'un plafond de taux de chômage n'est pas atteint. Donc là, aujourd'hui, il faut que pour que les gens puissent avoir leurs droits comme avant, en fait, au niveau de la durée, donc il faudrait dépasser les 9% de chômage. Aujourd'hui, on est à 7. Là, ils annoncent vouloir passer à 5. Donc bon, bah les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut au niveau du gouvernement. Nous, ce qu'on voit dans les agences, c'est que les inscriptions augmentent, les sollicitations pour les allocations chômage, l'accompagnement à l'emploi, donc n'en finissent pas. Les gens recherchent bien du boulot.
Oui, mais le but est de toute façon de faire baisser officiellement les chiffres du chômage pour dire que les réformes ont été plutôt positives, mais de créer des millions et des millions de travailleurs pauvres et de travailleuses pauvres en plus. Alors, dans les dernières questions que je voulais poser, il y a notamment, on dit que France Travail, c'est une étape de privatisation de Pôle emploi. Pourquoi ?
Alors, la première raison, c'est que justement, en ayant fait ces économies au niveau du droit de l'assurance chômage, en ayant supprimé la cotisation assurance chômage, donc du coup, les finances au niveau de l'assurance chômage deviennent excédentaires. Donc en fait, ce qu'il faut savoir historiquement, le régime d'assurance chômage était à l'équilibre. Et en fait, ce qui a creusé le déficit, c'est la création de Pôle emploi. Donc c'est un choix politique de commencer en fait à réformer le service public de l'emploi et l'assurance chômage qui a plombé les finances décalant le budget d'assurance chômage, en compensant en fait le retrait de l'État vis-à-vis du personnel de la NPE et verser leur salaire sur la base de ce budget. Donc c'est ça qui a créé le déficit. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les droits ont été tellement compressés que des excédents commencent à apparaître, donc notamment 4 milliards d'euros par an sur 3 ans. Et c'est ces économies-là en fait qui vont servir à financer donc la mise en place de France Travail, et donc la contrainte à prendre un travail à tout prix, quel qu'en soit le coût, en fait, pour le coût humain, je veux dire, pour la personne, et quel qu'en soit en fait quel qu'en soit l'issue, puisque l'idée en fait c'est de renoncer à un projet professionnel Voilà, et on part plus maintenant d'un projet propre avec ses, avec son parcours de vie, mais on doit coller aux besoins immédiats du marché de l'emploi.
Et alors pour terminer sur France Travail, dans combien de temps la loi va être mise en application? Quel est le calendrier du gouvernement pour sa mise en application? Ce qui va nous permettre de savoir combien de temps on a pour résister.
Alors en fait, France Travail officiellement, ce sera à compter du 1er janvier 2024. Mais bon, tout ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Donc il y a, ça va être gradué dans le temps. Donc nous, on nous annonce un dispositif qui va se développer sur 3 ans jusqu'à 2027, sachant que la première année, donc le gros sujet, ce sera la mise en place de ce qu'ils appellent une nouvelle gouvernance à tous les échelons. Donc à tous les échelons, c'est-à-dire national, régional, départemental, local. L'entrée de l'État à l'échelon régional et départemental, c'est-à-dire que les préfets seront présents pour prendre les décisions et les orientations régionales, départementales. Le préfet, en fait, il est rattaché au ministère de l'Intérieur, il n'est pas du tout attaché au ministère du Travail, donc ça fait un peu flipper, voilà, quand on se dit que dans les instances de décision, ce sera le ministère de l'Intérieur qui débarque dans les instances de décision pour l'emploi avant et maintenant France Travail. Le réseau s'ouvre, va s'ouvrir aux agences intérimaires. Donc c'est vrai que je fais le lien avec la question de la privatisation et du financement de France Travail. En fait, les gros excédents qui se sont dégagés en fait avec les économies faites sur le dos des chômeurs vont servir en fait à arroser en fait le développement de la privatisation et notamment l'entrée des agences intérimaires dans l'accompagnement à l'emploi. Aujourd'hui, ils annoncent avec l'arrivée de France Travail seulement 40 000 moyens humains supplémentaires dédiés à France Travail, donc Pôle emploi qui devient France Travail, mais les moyens vont être réellement mis, en fait 40 000 au niveau national, quand on sait qu'on va presque doubler qu'on va presque doubler en fait le nombre d'inscriptions dans certaines agences, le nombre de chômeurs pourra doubler puisque il y a 2 millions aujourd'hui de bénéficiaires du RSA, donc ça va doubler en fait les personnes inscrites dans certaines agences. Avec 40 000 personnes, avec 40 000 recrutements annoncés au niveau national, c'est rien en fait par rapport au réseau déployé actuellement. Et en fait, les moyens vont être mis pour le privé, pour développer l'emprise en fait du secteur privé et nourrir en fait les agences intérimaires sur le dos des chômeurs.
Alors bon, merci beaucoup pour tous ces détails sur France Travail. On va s'arrêter là sur cette interview. Merci d'être venu. On rappelle quand même qu'il y a toujours cet accord du 10 novembre là qui est une des étapes, une des nouvelles étapes dans les attaques sur le régime de l'assurance chômage, qui a été donc validé récemment, qui s'attaque au régime général, qui invalide un certain nombre de mesures qui pourraient être bénéficiaires aux intermittents et intermittentes du spectacle. Et puis on l'a su là tout récemment, Bruno Le Maire l'a annoncé, le gouvernement veut durcir cet accord du 10 novembre en s'attaquant à l'indemnisation des ce qu'on appelle les seniors, donc les plus de 55 ans. Donc on continue à avoir des étapes successives et des attaques successives sur ce régime d'assurance chômage. C'est la raison pour laquelle il y a déjà depuis plusieurs semaines une mobilisation en cours en France, on en a déjà aussi pas mal parlé ici. Donc on donne les rendez-vous de cette semaine pour cette mobilisation contre France Travail et contre l'accord du 10 novembre et surtout contre le durcissement de cet accord par le gouvernement qui veut encore réduire les droits des chômeurs et des chômeuses. Demain, à la Bourse du Travail, à 18h, il y a une assemblée générale qui est appelée par la CGT Spectacle et l'Assemblée Générale des Intermittents, Intermittentes et Chômeurs, Chômeuses. Et puis surtout jeudi à 11h, au départ des Bretaux, il y aura une manifestation et c'est une semaine d'action nationale à l'initiative de plusieurs organisations, dont la CGT Spectacle, et ce depuis déjà plusieurs semaines. Merci en tout cas pour tous ces détails sur France Travail.
Et pour finir l'émission, on passe à notre traditionnel agenda.
Oui, donc demain mardi, vous pouvez, si vous voulez, participer à un arpentage organisé par Lyon à double sens, qui aura lieu à la librairie La Griffe à 18h30. C'est un arpentage du livre « Penser l'écologie sociale » de Murray Bookchin. La Griffe, c'est 6 rue Sébastien Griffe. Mercredi au bar, les clameurs, il y a une soirée de présentation de la semaine antifasciste à 19h. Les clameurs, c'est 23 rue d'Aguesseau. Alors justement, pour la semaine antifasciste, pour les détails, vous pouvez vous référer au site Rebellion. Les concerts du jeudi sont déjà complets. Mais sinon, pour vendredi, vous pourrez aller à une conférence sur le néocolonialisme et les quartiers populaires à l'Amicale du Futur à 20h. C'est 31 rue Sébastien Griff. Le samedi, il y a un programme de conférences et discussions sur la répression d'État et l'abolition de la police qui commence dès 13h à l'Illégalité. C'est 6 rue de l'Égalité. La soirée se poursuivra avec DJ Trash and Sbull. Dimanche, librairie de la Griffe toujours, donc 5 rue Sébastien Griff. C'est conférences, discussions extrême droite et antifasciste. Et pour finir, lundi prochain, au bar Les Clameurs à nouveau, 23 rue d'Aguesseau, islamophobie et racisme d'État, c'est une discussion dans le cadre des causeries des clameurs, c'est à 19h avec Louisa Yousfi, journaliste et autrice de Restez Barbare. Si vous ne voulez pas faire que de l'antifascisme, vous pouvez aussi aller à l'atelier d'autodéfense féministe à 10h. Réservation en ligne, c'est au RIS, 23 rue Valentin Ahuy à Villeurbanne. Et le samedi soir, il y a aussi un concert de soutien qui s'intitule La police mutile, l'inverse répare à 19h30. C'est pour financer l'opération d'une camarade mutilée par la police. C'est au Toy Toy, 17 rue Marcel Dutartre à Villeurbanne. On peut peut-être quand même rappeler les rendez-vous de demain et jeudi.
Alors demain, donc 18h à la Bourse du Travail, une nouvelle assemblée générale pour tous les intermittents, intermittentes du spectacle et les chômeurs et les chômeuses contre l'accord du 10 novembre et France Travail. Et jeudi, donc venez nombreux, nombreuses et faites tourner au maximum une manifestation organisée donc à partir de 11h au Brotteau. Et je crois bien que samedi également, il me semble que tu l'as pas dit, mais qu'il y a une nouvelle mobilisation en soutien à la Palestine à 14h ou 15h au départ de Bellecour.
Samedi également, à l'appel de la CGT Livreur, donc, pour soutenir la grève des livreurs, un départ en cortège qui se fera du McDo de Grange Blanche samedi à 18h.
Donc une grosse semaine de lutte encore.
Et nous, on vous dit d'ici là, à la semaine prochaine.
Bon, on va se croiser avant apparemment, vu tout ce qu'il y a
à priori.